pour entrer et puis pour persévérer dans cette vie d'oraison. Et c'est le moment de dire combien Thérèse d'Avila est une immense pédagogue de la vie intérieure et de l'oraison en particulier. Elle a l'art de tout simplifier, avec des images très parlantes, très concrètes. N'oublions pas qu'elle s'adresse à des personnes généralement toutes simples, qui ne sont pas plus douées que d'autres pour ce dialogue avec Dieu. Plus sensibles, peut-être, à la présence de Dieu. Voilà pourquoi on parle de vocation contemplative. Mais enfin, ces personnes viennent au monde sans savoir comment s'y prendre avec le bon Dieu. Et la première chose que Thérèse va nous dire, c'est l'importance, justement, de bien comprendre comment fonctionne le dialogue avec Dieu. Dans une relation, dans une histoire d'amour, si l'on ne se comprend pas, eh bien, cet amour va retomber sur lui-même, ne se développera pas. Thérèse va nous dire l'importance de bien comprendre ce que Dieu veut, ce qu'il attend de nous dans ce dialogue. Alors, je vais d'abord lire un petit passage de sa vie par elle-même. Nous avons déjà rencontré des textes de sa vie par elle-même, rédigés, je le rappelle, pour que ses directeurs spirituels puissent se rendre compte de ce qu'elle vivait et en vérifier l'authenticité. Lorsque Dieu accorde à une âme les premières faveurs surnaturelles, elle ne les comprend pas et ne sait comment se conduire. Et elle aura cruellement à souffrir, à moins de trouver un maître qui comprenne son état. Et c'est un grand bonheur pour cette âme de voir alors la peinture fidèle de ce qu'elle éprouve. Elle reconnaît la voie où Dieu la met et elle y marche avec assurance. Je dis plus. Pour faire des progrès dans ces divers états d'oraison, il est d'un avantage immense de savoir la conduite à tenir dans chacun d'eux. Et pour moi, faute de cette connaissance, j'ai beaucoup souffert et perdu bien du temps. Aussi, je porte une grande compassion aux âmes qui, arrivées à ce degré, se trouvent seules. Dans ce court passage, Thérèse d'Avila, en réalité, va parler de la contemplation proprement dite. Mais, d'une part, nous avons vu que la contemplation est l'arrière-fond de toute prière, même celle où nous parlons beaucoup, nous disons beaucoup de choses à Dieu. Et puis, d'autre part, à l'occasion de la contemplation, elle nous dit quelque chose qui doit nous accompagner tout au long de la vie spirituelle. C'est librement et consciemment que l'on s'adresse à Dieu, jamais comme une machine, et dès lors, il faut comprendre ce que l'on fait, et faute de comprendre, elle vient de nous dire que l'on perd du temps, que l'on souffre, que l'on n'avance pas, que l'on se décourage, et tous les grands maîtres, je pense ici particulièrement à Saint Jean de la Croix, nous disent qu'ils se sentent obligés de prendre la plume lorsqu'ils ont expérimenté cette importance de comprendre ce que Dieu fait, ils prennent la plume pour aider leurs frères, sinon, ben, comme dans toute histoire d'amour, faute de connaître la langue de celui que l'on aime, cet amour va retomber sur lui-même, va avorter en quelque sorte. Alors, pourquoi, au fond, Dieu nous a-t-il rendu la tâche aussi difficile? Pourquoi est-ce que, pour reprendre l'expression de Thérèse, on ne comprend pas ce Dieu qui nous aime? Eh bien, la réponse est toute simple. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute, je ne sais pas. En tout cas, c'est une conséquence de la faute de nos premiers parents, une conséquence du péché originel. Et nous dirait saint Paul, nous naissons dans le péché, c'est-à-dire nous naissons dans un pays étranger. Notre patrie, c'est Dieu lui-même. Et lorsque nous venons au monde,